foi et turbulence.
Bonjour et salutations à tous et à toutes, ici François Gloutenay, vous êtes à l'écoute de l'émission Foi et turbulence. Nous sommes le mercredi 3 mars 2021. Alors bienvenue à cette table ronde qui accueille deux fois par mois des chroniqueurs, des observatrices et des journalistes qui ont le mandat d'analyser des éléments de l'actualité récente. Nos invités nous aident à comprendre les enjeux derrière les faits et les événements qui nous sont rapportés par les médias que nous lisons ou fréquentons quotidiennement. Durant la prochaine heure, on va demander à ces spécialistes de trouver un peu de sens et d'humanité au milieu de toutes ces informations qui nous questionnent et parfois même nous déroutent. Ce qui intéresse nos analystes, c'est toute l'actualité, qu'elle soit politique, sociale ou religieuse, tant nationale qu'internationale. Alors cette semaine, trois commentatrices et commentateurs viennent discuter et débattre de leur point de vue sur les événements des derniers jours. Laissez-moi vous les présenter. À l'extérieur du studio, il y a Sabrina Di Matteo, directrice adjointe à la formation continue à la Conférence religieuse canadienne. Bonjour Sabrina.
Bonjour François, bonjour à tout le monde.
Bon, alors il fait beau chez vous, là?
Dans la neige, encore.
Dans la neige, bon. Ici en studio, il y a Suzanne Loisel, une religieuse auxiliatrice et une militante du collectif Échec à la guerre. Bonjour Suzanne.
Bonjour François.
En bonne santé, elle a été vaccinée aussi, n'est-ce pas Suzanne?
Ah oui, bon. Je suis vaccinée, j'attends la deuxième dose.
Bon, alors, et aussi à l'extérieur, en télétravail, on a Frédéric Barriot, un historien, responsable de la recherche et des communications au Centre Justice et Foi. Bonjour Frédéric.
Bonjour, bonjour à toute l'équipe.
Bon, alors, bon matin là, à chacun et chacune. Alors aujourd'hui, on va discuter de la reconnaissance par la Chambre des communes d'un génocide contre les Ouïghours musulmans, une minorité de la Chine. On va discuter de la situation à Haïti et de la conclusion d'une enquête de 3 années menée auprès des partenaires de l'organisme Développement et Paix Caritas Canada. Mais d'abord, un bilan de cette pandémie qui nous affecte depuis 1 an déjà. Alors, j'aimerais vous inviter à un retour en arrière. Il y a presque 1 an, le 12 mars 2020, se tenait à l'Assemblée nationale un point de presse, le premier d'une longue série. Vous aviez là le premier ministre François Legault, qui était accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle Mécan, et du directeur de la Santé publique du Québec, un docteur appelé Horacio Arruda, qu'on va apprendre à bien connaître au cours des 12 derniers mois. Alors, les trois annoncent de nouvelles directives à l'intention de la population du Québec, tout en précisant que pour le moment, la pandémie de la COVID-19 est sous contrôle au Québec, avec seulement 13 cas confirmés. Le premier ministre fait savoir qu'il entend prendre toutes les mesures pour freiner et ralentir au maximum une contagion qui est devenue inévitable, dit-il. Le premier ministre annonce qu'à compter de ce jour, le jeudi 12 mars 2020, toutes les personnes qui reviennent d'un pays étranger ou qui présentent des symptômes associés à la grippe ou au rhume doivent se placer en isolement volontaire pour 14 jours. Il a aussi annoncé que les organisations doivent annuler tous les rassemblements intérieurs de plus de 250 personnes ou qui ne sont pas nécessaires pour les 30 prochains jours, donc jusqu'à la mi-avril. Enfin, le premier ministre a demandé expressément de protéger les personnes aînées de la COVID-19 et de ne pas se rendre dans les centres d'hébergement si l'on est affligé le moindrement de symptômes semblables à ceux de la grippe. Alors, dehors de ce point de presse, la toute première d'une longue série de ces événements, les seules mesures de sécurité annoncées étaient alors les suivantes. Se laver les mains régulièrement avec du savon et tousser et éternuer dans son coude. C'était le 12 mars 2020. J'aimerais aller avec vous, Suzanne Loisel. Quels étaient vos sentiments, vous, le 12 mars 2020, il y a 1 an?
C'est incroyable, hein, quand je vous entends relater la séquence du 12 mars. Bon, écoute, moi, je pense que j'étais à la fois dans un peu d'incrédulité en disant, bon, ils exagèrent quand même. Bon, on savait qu'il y avait un virus, oui. En même temps, Je l'ai appris bêtement, faut dire. Vous faites allusion à la conférence de presse, au point de presse à l'Assemblée nationale. Mais moi, je l'ai appris en allant visiter quelqu'un dans un centre de réadaptation. Et j'allais porter des choses, comme je le faisais depuis quelques jours. Et je suis arrivée, le nez sur la porte, fermée, avec des grandes affiches, défense d'entrée. Puis là, il y avait toute une série, bon, que vous avez évoqué, la distance, tousser, etc. Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'avais pas écouté le point de presse. Et là, je me suis dit, mon Dieu. Et puis là, quelqu'un est venu à ma rencontre, disait, ben, madame, vous avez pas l'air d'être au courant de ce qui se passe, tout est interdit, etc. Disons que cette porte fermée, je pensais pas que ce serait une porte qui se fermerait pendant tant de mois. Oui, ce centre a ouvert avec des conditions très particulières. Mais je dirais que mes sentiments, c'était à la fois de l'incrédulité, dire, bon, je pense que la proportion des moyens par rapport aux inquiétudes, comme je suis pas quelqu'un qui est porté à s'inquiéter, j'ai pris ça un petit peu en me disant, bon, ben, dans 15 jours, les choses vont se replacer. J'avais aucune perspective à long terme de ce qui pouvait arriver, puis je pense que j'étais pas la seule. Si on m'avait dit le 12 mars, dans un an, vous allez vous retrouver encore avec des consignes, moi j'habite dans une RPA, pas de visite, etc., comme toutes les mesures que les gens connaissent. Une chance qu'on savait pas que ça durerait si longtemps, je pense. Donc, l'énergie se déployait à mesure que les jours se déroulaient. Par rapport aux mesures, je pense qu'il y avait, j'accepte que la santé publique a une responsabilité par rapport à la population. J'accepte de respecter un certain nombre de contraintes. Je pense que dans certains cas, on est allé beaucoup trop loin. Et je trouve qu'il y a des mesures qui sont inégales entre ouvrir un cinéma, laisser un lieu de culte fermé, ou accepter qu'il y a 250 personnes dans un lieu puis qu'il n'y en ait pas plus que 10 dans un autre. Et tout ce que ça a entraîné comme conséquence psychologique, comme conséquence humaine, bon, le drame des CHSLD, le 12 mars, on n'avait aucunement... Bon, on misait sur notre système hospitalier, on a pris des mesures, mais là, on se rend compte avec ce qui sort maintenant. Je suis assez troublée, dans le fond, par le livre qui vient de sortir, Le Long Printemps, avec des faits connus à l'époque, mais dont on ne faisait pas mention dans les points de presse. On pourra y revenir, mais je pense que les effets psychologiques, les effets humains, les effets sociaux, un an après, je trouve qu'il y a beaucoup de questionnements.
Oui, un an après, Sabrina Di Matteo, comment vous sentez-vous aujourd'hui?
Ah, je trouve, comme probablement beaucoup de chrétiens, que c'est un long carême. Vous vous souvenez, l'an dernier, le mercredi des cendres qui commence le carême, c'était le 26 février 2020. Et donc, on savait déjà, on observait la pandémie se propager en Asie, en Italie. Il y avait déjà le confinement très sévère et on voyait ça venir. Et donc, rapidement, notre carême a été marqué par la pandémie, par la fermeture des lieux de culte, des églises.
Oui. Dès le dimanche 15 mars. Hein,
exactement. Ouais. C'est ça. Et donc, ça fait depuis. Et là, on a recommencé notre carême avec 2021, mais on dirait qu'il n'a jamais terminé, même si on a eu un petit sursis d'été. Là, je pense que les gens se disent, bon, les privations de carême, là, on va peut-être mettre la pédale douce parce qu'on s'est beaucoup privé de tellement de choses essentielles. Je crois que la pandémie nous a aussi aidé à porter un regard sur ce qui est essentiel dans nos vies, nos relations, le fait de voir nos familles, le fait de pouvoir s'assembler, de voir des amis. Et particulièrement, moi, j'ai beaucoup observé notre rapport aux rituels et aux rites. Je vais parler des lieux de culte dans un moment, mais je pense que ça a beaucoup frappé les gens. Peu importe leur adhésion religieuse, peu importe s'ils croient ou pas, le fait, par exemple, que pour pour les décès vécus durant le premier confinement, les premiers mois, les funérailles en général ont été reportées pour énormément de familles. Beaucoup de familles ont attendu des mois avant de pouvoir célébrer les funérailles, de dire un dernier adieu à leurs proches. Et quand elles ont pu le faire, souvent c'était par très petits groupes. Hein. C'est déchirant de devoir dire oh, on peut juste prendre 10 personnes ou un maximum de 25. Et les autres, ben éventuellement les salons se sont organisés par exemple pour diffuser la célébration des funérailles sur Zoom ou je ne sais quoi, donc pour permettre à d'autres de participer, mais juste la possibilité de se voir, de se prendre dans les bras dans ces moments difficiles, on l'a perdu. Et Suzanne en faisait mention, il y a beaucoup de gouvernance par paradoxe là-dedans. Alors pourquoi est-ce que pendant un certain temps les salons funéraires pouvaient accueillir 25 personnes, mais les lieux de culte pouvaient, je crois, au début, ne pouvaient pas du tout, je crois, tenir de funérailles, puis éventuellement, ça a été 10 personnes. On le voit avec la semaine de relâche en ce moment, les cinémas, les commerces sont ouverts, mais dans les lieux de culte, dans des cathédrales, des églises énormes, on peut juste être 10. Ça, il y a vraiment eu beaucoup de confusion et de paradoxes autour de la question des lieux de culte qui, je pense qu'on doit se le dire, peut tout à fait démontrer soit une ignorance, soit carrément, j'ose le dire, un dédain de la coalition Avenir Québec vis-à-vis les lieux de culte. En même temps, on a vu la création de la table interreligieuse du Québec comme force d'interlocution avec le gouvernement, mais qui s'est beaucoup concentrée sur la question de l'accès aux lieux de culte. On n'a pas vraiment vu autre chose que ça comme enjeu porté par cette table. Mais c'est quand même un bon début. Et je reviens à la question des rituels. J'avais signé une chronique, je crois que c'était le 30 mars 2020 pour Présence Info Religieuse, où je demandais est-ce que notre Église, elle est déconnectée, c'est-à-dire à un moment où tout le monde devait improviser, peu importe, encore une fois, là, qu'on parle d'une église, d'un temple juif ou je ne sais quoi, tout le monde s'est mis à devoir improviser pour poursuivre les rassemblements de façon virtuelle. Du côté catholique, ce que ça a donné rapidement, c'était... Moi, je me souviens, j'étais consternée, j'ouvrais ma page Facebook et tout d'un coup, tout ce que je voyais dans mon fil de nouvelles, c'était des ostensoirs, des adorations en direct ou des prêtres qui filmaient leur messe personnelle en direct au bénéfice de leurs contacts, de leurs paroissiens. J'avoue que j'étais très mal à l'aise avec ça parce que je trouvais qu'on était face à une sorte de cléricalisation de cette messe qui était diffusée, alors que la célébration, elle tient à l'importance de la participation des gens qui se rassemblent. Bon, et dans le temps, ben on a vu les choses évoluer, progresser, les groupes, des groupes de partage, de lecture biblique se sont mis ensemble. Et je pense que finalement, un an plus tard, on peut dire que il y a des choses intéressantes qui se sont faites. Il y a eu de la créativité, et il y a eu des choses intéressantes dans le fait que qu'on peut se demander qu'est-ce qui va arriver après quand la pandémie sera finie. Est-ce que les gens vont retourner à leur église de quartier? Ou est-ce qu'ils vont continuer à s'assembler virtuellement? Est-ce que ça sonne la cloche de la fin d'une église qui se rassemble par territoire et qui va plutôt continuer de se rassembler par affinité? On peut se brancher à n'importe quelle messe ou participation ou événement dans le monde. Alors, moi, c'est les questions que je porte en ce moment là sur la suite.
Ben voilà, des réflexions, en tout cas, que les lieux de culte vont devoir mener, en tout cas, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. J'aimerais ça vous entendre, vous, Frédéric Barriot, est-ce qu'il y a des leçons que le gouvernement, par exemple, du Québec devrait avoir retenues au terme de cette première année-là?
Bien, c'est intéressant que Sabrina ait parlé d'Eucharistie, donc de sens de la communauté, je pense que du repas partagé, parce que s'il y a quelque chose qui a été très révélateur finalement, c'était justement un manque de solidarité assez marqué. Donc, ça nous a révélé, en tout cas, ça a été un verre grossissant, une loupe grossissante sur des faillites, littéralement, des failles, des décennies de néolibéralisme, notamment dans le réseau de la santé et particulièrement dans le réseau des CHSLD. On a ressorti en fait des vieux reportages qui étaient d'aussi loin que les années 90, qui rappelaient le sous-financement chronique et désastreux de CHSLD. Donc, je pense que ça a été un verre grossissant de ces d'années et de décennies, finalement, d'implantation d'une manière managériale, déshumanisante, finalement, du réseau de la santé. Et je pense que cette pandémie-là nous l'a rappelé. Donc, évidemment, le réseau de la santé est extrêmement fragile, sursollicité. Mais tout ce qui vient en amont, finalement, donc tout ce qui est vraiment donc les déterminants sociaux de la santé, je pense que ça a été extrêmement, extrêmement révélateur. Cette crise-là a frappé dans toutes les directions. Et je ne suis pas sûr, on va voir dans le prochain exercice financier, mais j'ai peu d'attente du côté du ministre Girard, qui est un banquier, qui pense comme un banquier. Donc, j'ai hâte de voir vraiment si les mesures, c'est un panier de mesures sociales pour réduire la pression quand même. Là. Rappelons-le, là. Il y avait un camp de tentes sur la rue Notre-Dame il n'y a pas si longtemps.
Oui, c'est vrai.
Je ne sens pas en ce moment vraiment que cette leçon-là a été retenue. Une autre dimension, on sait que cette pandémie-là a été aggravée, donc trouble sa source finalement dans notre rapport à l'environnement, et particulièrement dans tout ce qui touche à la déforestation. Donc, c'est les contacts de plus en plus fréquents entre humains et animaux, donc la flore microbienne des uns et des autres. Et on voit très bien qu'à la fois à travers la planète, pensons au Brésil de Bolsonaro, entre autres choses, mais dans les derniers jours, on a entendu que le gouvernement Legault, va livrer encore sur un plateau d'argent aux compagnies forestières des régions qui devaient être protégées. Il y a même question aussi d'un projet de mine à ciel ouvert près de Mont-Tremblant. Donc, je ne suis pas sûr qu'on est en train finalement de mettre en place une relance qui va être juste pour les personnes appauvries, mais aussi qui va être verte et qui va justement permettre d'assurer une résilience à long terme, tant au plan social, écologique que, disons-le, sanitaire. On crée les conditions finalement qui ont été à la source même et à la cause de cette pandémie.
Alors, plein de sujets, j'imagine que les commentateurs et commentatrices à Foi et Turbulence sur lesquels ils devront se pencher dans les prochaines semaines, en tout cas d'ici la fin de la saison. Le temps file pour vous trois et on va clore sur ce dossier-là en vous rappelant que le 11 mars prochain, donc le gouvernement du Québec va tenir une journée de commémoration pour les victimes, en hommage aux victimes de la COVID-19. En ce jour, 10 407 Québécois et Québécoises en sont décédés. 92% d'entre elles étaient âgées de 70 ans et plus. Alors, le Canada doit dénoncer ouvertement et clairement le régime dictatorial instauré par le président Jovenel Moïse en Haïti. C'est ce qu'a déclaré au mois de février la Conférence religieuse canadienne qui représente quelques 200 congrégations d'hommes et de femmes au Canada. La violence qui règne actuellement dans ce pays des Antilles est indescriptible. La peur règne. Les enlèvements se multiplient, ce qui implique la demande d'importantes rançons. Le désordre est total et les gens meurent de faim. Suzanne Loisel, vous connaissez bien la situation en Haïti, vous êtes toujours intéressée à ce pays-là. Est-ce que cette réaction de la Conférence des religieuses canadiennes est exagérée? Les gens meurent de faim actuellement en Haïti?
Bien sûr. La situation humanitaire en Haïti est catastrophique. La famine, la pauvreté, le chômage, l'état de santé de la population, etc. Moi, je me suis réjouie profondément de la déclaration de la Conférence religieuse canadienne, d'autant plus qu'il y a beaucoup de communautés du Québec qui ont des confrères, des consoeurs en Haïti, ce qui ne m'étonne pas de la vivacité de la prise de parole. Oui, la situation, elle est catastrophique. Je pense qu'on pourrait donner un certain nombre d'indices économiques, sociaux, que probablement tout le monde connaisse. Mais ce qui me frappe, parce que vous avez évoqué la déclaration de la CRC, c'est l'ampleur des positions tant au plan national en Haïti qu'au plan international. La déclaration de la CRC s'inscrit aussi dans une série de déclarations. Et bon, que ce soit des groupes à l'interne, que ce soit tout le réseau des droits humains en Haïti, le RRNDDH, que ce soit le réseau des groupes de femmes, que ce soit des centres culturels, que ce soit l'université Quisqueya, qui ont pris position sur, oui, la situation humanitaire, mais oui, le blocage constitutionnel dans lequel on est. Mais aussi, tout ce partenariat, bon, je pense qu'il faut qu'on soit au fond de l'abîme, on dirait, pour que on entende des voix fortes sur la place publique. Mais je pense à tout le réseau de la solidarité au Québec. Il y a différents réseaux, dont la CPH, la Concertation pour Haïti, qui a aussi fait une déclaration. D'autres réseaux de la société civile, dont plus pan-canadien que québécois. Mais il y a le réseau français, il y a le réseau suisse, il y a tout le réseau au niveau de la communauté européenne qui ont pris parole sur la situation, dénonçant ce qui se passe, oui, au plan humanitaire, mais oui, au plan constitutionnel. Et par rapport au gouvernement en place, faut savoir que, oui, on parle beaucoup de la situation humanitaire, mais il faut parler aussi de la dictature. On est dans un contexte gouvernemental où on est témoin d'une dérive dictatoriale.
Où il n'y a plus de gouvernement, carrément.
Bien, c'est-à-dire qu'il y a un chef de gouvernement qui s'autoproclame parce que son mandat est terminé depuis le 7 février 2021. Et par rapport à ça, la communauté internationale, qui a pour moi est un peu des fois un concept bidon, mais quand même, il y a des groupes, pas des groupes, mais il y a des pays qui sont regroupés dans le core group, qui suivent la situation en Haïti et qui, de façon aberrante, maintiennent le processus électoral, annoncent des fonds pour soutenir les élections quand on est dans un contexte social, politique, complètement déstructuré. Et le Canada fait partie du core group. C'est le groupe qui rassemble les gens qui ont des intérêts en Haïti. Un core group qui est complètement dominé par les États-Unis. Et pour ne pas reparler de l'ère Trump, hein, c'est difficile de pas en parler, mais on comprendra que Haïti n'était pas dans les cartons de M. Trump, en tout cas en termes de priorité, sauf son lien avec quelqu'un qui avait l'allure d'un dictateur et il n'a jamais remis en question d'aucune façon la façon de gérer ce pays. Mmh. Alors, on est dans un processus où, bon, il y a un nouveau gouvernement aux États-Unis. M. Biden a demandé récemment un rapport complet de la situation en Haïti pour un peu, bon, j'ose dire, réorienter la politique par rapport à Haïti. Est-ce que ceci aura aussi une influence sur le core group et le Canada? Et moi, je termine en disant, je trouve honteux que le Canada n'ait rien à dire de significatif sur la situation en Haïti. Il y avait d'ailleurs un éditorial de Guy Taillefer qui parlait de la passivité du Canada.
Dans le devoir.
Dans le devoir. Moi, je dirais que c'est plus que de la passivité. C'est une absence totale. Et pourquoi, dans ce contexte-ci, alors que le Canada a joué des mauvaises cartes et des bonnes cartes par rapport à Haïti dans les 40 dernières années? Mais là, il n'y a absolument rien. Et j'essaie de suivre les déclarations du nouveau ministre des Affaires étrangères du Canada. Il n'y a pas un mot sur Haïti depuis la crise. Et la crise actuelle, bon, on l'évoque depuis le mois de janvier, mais ça fait au moins 2 ans que les gens anticipaient ce moment avec inquiétude.
Alors, le sujet d'Haïti a été longuement discuté à Foi et Turbulence c'est les 2 dernières années, je crois bien, avec des manifestations dans
tout
les rues
fait.
Et tout ça. Frédéric Barriot, quand vous regardez, vous, la position actuelle du Canada, ou plutôt le silence du Canada dans ça, vous appelez, vous, à une reprise de cette intervention-là du Canada dans ce pays-là?
Oui, particulièrement. particulièrement quand on voit quand même le rôle historique qu'ont joué de nos voisins immédiats, les États-Unis. Il y a une genèse, quand même, il y a une longue genèse à tout ça, une crise économique et sociale qui trouve son origine presque depuis l'occupation américaine, au tournant des années 20, le soutien aussi aux juntes militaires, quand même, pour le dire, là, on a une fine fleur ici d'une diaspora extrêmement dynamique, mais c'est aussi le cœur et l'âme d'une bonne partie de l'île d'Haïti, finalement, qui a été arrachée pendant des années et des années. Donc, un exode qui s'est perpétué pendant très, très, très longtemps. Le Québec en particulier, faut mentionner quand même le rôle qu'ont joué les Jésuites ici à travers, le fondateur du Centre de justice, c'est pas Julien Harvey, entre autres, pour naturaliser donc ces personnes-là. Mais bon, le cœur, voilà ce qui se passe quand même. Là, il y a vraiment une destruction quand même. Là, donc de la force finalement, des forces vives. Des années aussi quand même, faut le dire. Le tremblement de terre a frappé extrêmement fort. Il faut voir aussi comment le cynisme. Donc, on sait par exemple que le cynisme, par exemple, des États-Unis qui ont envoyé vraiment de l'aide alimentaire, ce qui était quand même justifié dans le contexte. Mais on sait, par exemple, qu'il y a eu du dumping de riz américain, parce qu'il y a des États qui produisent du riz aux États-Unis, donc du dumping de riz américain qui ont complètement anéanti la filière risicole. Et là, il y a tout l'ouest du pays aussi, donc la région d'Artibonite, notamment, qui est à la frontière vraiment de la République dominicaine. Donc, c'est un peu ça qui est en train de se produire. Mmh. Donc, il y a vraiment une pauvreté, ce qui n'enlève rien vraiment à l'incroyable dignité et l'incroyable résilience du peuple haïtien. Mais c'est là. Donc, le Canada vraiment devrait justement être un acteur qui soutient la société civile plutôt que le régime actuel en regard de tout ça. Donc, vraiment, s'éloigner justement de ce fameux core group et arriver vraiment avec une nouvelle posture pour justement être un véritable allié de la population haïtienne.
Alors, le Canada devrait adopter une nouvelle posture dans ce dossier-là. Je vous rappelle ce que écrivait la Conférence religieuse canadienne. Actuellement, à cause du silence du gouvernement canadien, nous nous sentons complices des gestes de M. Jovenel Moïse qui provoquent une situation inhumaine et désastreuse. Nous sommes révoltés de cette situation, a déclaré la Conférence religieuse canadienne. Sabrina DiPanteo, vous travaillez précisément à la Conférence religieuse canadienne. Vous avez reçu au moins un accusé de réception du premier ministre Trudeau.
À ma connaissance, dans ces derniers jours, non, on n'a toujours rien reçu.
Et le gouvernement n'a toujours pas pris la parole sur ce dossier.
Non, exactement. Et je crois qu'il faut souligner, et puis écoutez, j'ai pas grand-chose à rajouter après Suzanne et Frédéric qui ont très bien résumé la situation, mais ce n'est pas une situation d'urgence au sens où c'est quelque chose qui se passe depuis un mois en particulier. Oui. On voit venir ça depuis au moins 2017 parce que il y avait déjà eu la décision de Moïse de ne pas organiser des élections et des élections qui auraient permis de renouveler une première partie du Sénat. Et puis il a réitéré ce non renouvellement. Il a changé lui-même des mandats au sein du Sénat. Donc, comment dire, on aurait pu voir venir cela et s'impliquer d'avance pour essayer de changer la situation. Et donc là, alors que l'urgence se transpose sur la population avec tout ce que ça implique de peur, d'enlèvement, de rançon, de violence, et faut-il rappeler que souvent ce sont les femmes et les filles qui sont les premières victimes de cette violence en contexte de conflit, on n'a toujours pas d'intervention. Alors, je partage absolument cette honte que notre gouvernement canadien ne prenne pas la parole, ne se distancie pas du core group pour demander qu'il y ait changement.
Alors, je vous rappelle que, selon la Conférence religieuse canadienne, le Canada doit dénoncer ouvertement et clairement le régime dictatorial instauré par le président Jovenel Moïse en Haïti. C'est une déclaration faite au début du mois de février 2020. Alors, Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Foi et Turbulence. Je suis en compagnie de Sabrina Di Matteo, de la Conférence religieuse canadienne, de Suzanne Loisel, une religieuse du collectif Échec à la guerre, et Frédéric Barriot, un historien responsable de la recherche et des communications au Centre Justice et Foi de Montréal. Alors, d'Haïti, allons beaucoup plus loin maintenant, du côté des Ouïghours, qui est une population à majorité musulmane sunnite, qui habite notamment la région du Xinjiang, au nord de la Chine. Cette minorité culturelle et religieuse serait victime de persécutions par le gouvernement chinois, si l'on en croit les rapports que des organismes internationaux ont diffusés ces dernières années, ainsi que des images qu'ont captées des médias européens, notamment des camps de détention, où sont confinés là on estime même à quelque 1,8 million de Ouïghours là, qui seraient détenus dans ces camps en Chine. Le Canada dément cette estimation, ce nombre, et il affirme que ces personnes sont plutôt emmenées dans des centres de formation professionnelle destinés à les aider à trouver un emploi afin de les éloigner de la tentation de l'extrémisme religieux et de développer chez ces personnes-là un sentiment d'unité nationale. On n'en sait pas grand-chose, finalement, sur cette communauté, sur cette minorité chinoise, Frédéric Barriot, mais ce qu'on apprend de plus en plus commence à nous inquiéter.
Oui, tout à fait. Donc, ce qu'on sait, en fait, c'est que ça, c'est une minorité, en fait, turcophone, donc de langue turque, extrêmement, qui sont dans l'extrême ouest du pays, depuis quand même des siècles, qui sont installés là. Et donc, il faut quand même rappeler aussi qu'il y a un long historique de persécution anti-religieuse dans le régime chinois. Mais en même temps, ce qu'on apprend aussi, c'est que là, il y a deux faces ici à tout ça. Donc, à la fois une persécution. Bon, c'est par exemple, ça a été le cas du Tibet, ça a été le cas de plein de régions quand même qui ont été soumis à la botte du régime. Ce qu'il y a de nouveau ici, c'est dans le contexte aussi du virage capitaliste du régime là, depuis plusieurs années. Donc, ça devient aussi une main-d'œuvre à bon marché. Donc, sous prétexte, bien entendu, de rééducation, comme ils les appellent, donc sous prétexte de rééducation de ces gens qui dévient du socialisme officiel parce que croyant en un dieu, évidemment. Mais derrière tout ça aussi, il y a quand même une extorsion de plus-value, donc vraiment une exploitation éhontée dans des camps de travail. Donc, effectivement, ça nous rappelle des pages quand même assez sinistre de l'histoire, notamment de l'Union soviétique. Ce qui m'étonne, je suis très heureux quand même qu'il y ait eu une telle motion quand même pour dénoncer. C'était vraiment une situation qui était vraiment connue de longue date, étayée par des agences internationales et des organismes comme Amnesty International. Ce qui m'étonne, c'est cette unanimité-là dans le cas des Ouïghours qui est tout à fait justifiée, mais qui sous fond, bien entendu, de tensions entre le Canada et la Chine, qui ne date pas d'hier, hein, vraiment depuis son arrivée en poste, M. Trudeau a vraiment des conflits diplomatiques perpétuels avec la Chine, alors qu'au même moment, on sait par exemple que la situation en Palestine n'a cessé de se détériorer, que la situation des droits de l'homme aussi chez nos alliés de l'Arabie Saoudite sont aussi déplorables et discutables, mais dans ce cas-là, la bonne vieille alliance avec Israël, avec aussi donc l'Arabie Saoudite se maintient et on n'a pas vu une telle motion unanime. Donc,
ça fait longtemps, oui.
Il y a un déséquilibre assez frappant qui pose un certain nombre de questions. Donc derrière tout ça, est-ce qu'il y a une joute géopolitique inavouable? C'est un peu ce qui me... Je reste quand même très dubitatif, tout en saluant quand même là, ce geste envers une minorité persécutée.
Alors, le geste dont vous parlez, Frédéric, c'est que le 22 février dernier, les députés de la Chambre des communes à Ottawa ont voté en faveur à 266 voix et zéro contre pour statuer qu'un génocide est actuellement perpétré par la République populaire de Chine contre les Ouïghours. On a dénoncé la mise en place de camps de détention et de mesures visant à prévenir les naissances, soit la stérilisation forcée des femmes ouïghours. Les députés ont aussi demandé
au Comité international olympique de déplacer les Jeux olympiques de 2022 si la République populaire de Chine continue ce génocide. Pendant longtemps, en tout cas, le gouvernement Trudeau hésitait à utiliser le terme génocide, Suzanne Loisel. Et là, ce qu'on en prend, c'est que la majorité des députés, en tout cas à la Chambre des communes, et là, je vous rappelle que c'est pas tous les députés qui ont voté, plusieurs se sont abstenus, sur les 338 députés se sont abstenus, dont tous les ministres du gouvernement Trudeau. Mais il reste que c'est quand même majeur lorsqu'on ce qu'on vient de faire là. On a utilisé le terme génocide, là. C'est majeur.
Bon, il faut dire qu'il y avait un mouvement international à travers les nations de dénoncer ce génocide. Bon, il faut dire que le Canada, en fait, c'est la première assemblée parlementaire à travers la communauté internationale qui s'est positionnée en termes de dénonciation du génocide. Alors, on peut saluer ça, je pense, de reconnaître la situation des Ouïghours et de la dénoncer et de la qualifier de génocide. Je pense qu'il y a un saut qualitatif dans la compréhension de la situation. Évidemment, on a évoqué la situation concrète. Il y avait une entrevue avec une femme Ouïghour qui est réfugiée au Canada et qui décrivait qu'est-ce qui se passait dans les camps et particulièrement les violences faites aux femmes, etc. Mais ceci étant dit, de reconnaître que le gouvernement canadien reconnaisse le génocide des Ouïghours, en même temps, il faut se questionner sur l'abstention du vote. Oui, c'était à l'unanimité, le NPD, le Bloc québécois. Bon, c'est à l'initiative des conservateurs, faut-il le dire. Faudrait aussi s'interroger là-dessus. Et pour ce qui est, vous l'avez souligné, mais je pense qu'il faut le souligner fortement, c'est l'absence des ministres au moment du vote et de M. Trudeau.
Ah oui.
Alors, ça révèle une forme de lâcheté, à mon avis, de grande ambiguïté. Et ceci étant dit, une motion n'est pas contraignante.
Exact.
Alors, on peut se laver les mains de dire c'est un geste politique extraordinaire, c'est un geste de solidarité, mais il n'y a aucune contrainte là-dedans. Et je pense que il faut aller plus loin et faut se demander jusqu'où le gouvernement serait prêt, par exemple, à mettre en place un programme pour les réfugiés ouïghours au Canada. Et quelle sorte aussi de pression qu'il pourrait faire à l'ONU pour qu'il y ait vraiment un carrefour comme on l'a pour les réfugiés palestiniens au prix de longues luttes et que M. Trump avait complètement bulldozé. Mais il faudrait retrouver quelque chose d'absolument semblable. Si on dénonce qu'il y a un génocide, il faut avoir des alternatives sociales, humaines pour régler ce problème. Je finirai en disant que la complaisance de l'Occident vis-à-vis la Chine. Frédéric a évoqué les relations Canado-Chine. Il y a un enjeu aussi à ce niveau-là. Vous avez évoqué les Jeux de Pékin. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. entre des enjeux humanitaires liés à un peuple exclu, opprimé, et les enjeux économiques, etc. autour de Pékin. Je pense qu'il va avoir des valses diplomatiques majeures. Mais en tout cas, ceci dit, moi je pense qu'il faut à la fois reconnaître, oui, qu'on dénonce un génocide, mais il faut aussi, qu'est-ce qu'on fait pour les Ouïghours concrètement? Quelle sorte de programme on est prêt à appuyer? Est-ce qu'au niveau de la législation canadienne, on est prêt à accueillir aussi les Ouïghours? Bon, je pense qu'il y a beaucoup de questions autour de ça, mais moi, j'ai un peu de doute de poser ce genre de motion sans contrainte. Finalement, c'est une façon peut-être de se laver les mains de façon diplomatique.
Alors, une motion non contraignante. En terminant, Sabrina Di Matteo, quelques mots sur la situation?
Oui, je suis... Moi, ce qui m'a frappé en suivant ces histoires qui sont pas non plus de cette année, là, on surveille ça depuis... disons, c'est plus conscientisé depuis les premières rafles vers 2017-2018.
Oui.
Ce qui me fascine, c'est l'usage de la technologie pour arriver à voir ce qui se passe réellement. Notamment là, les photos satellites, les drones qui ont permis de voir ces camps, de voir qu'est-ce qui est en train de se passer dans les camps de rééducation et de contraster les rapports, notamment du chercheur allemand Adrian Zenz, avec ce que, disons, la campagne d'information alternative oui. que le gouvernement chinois met de l'avant. Et d'ailleurs, pour nos auditeurs qui souhaiteraient s'informer un petit peu plus, le Nouvel Observateur a un excellent article donc sur nouvelobs.com qui est paru hier le 2 mars et qui fait une chronologie des événements. Je pense qu'il faut qu'on comprenne que ce ne sont pas des figures publiques radicales qui sont enlevées et placées dans des camps de rééducation, mais des gens ordinaires, des familles qui sont séparées, des enfants qui sont placés dans des jardins d'enfants pour être élevés comme des Chinois de la nation Han. Ils perdent leur langue. C'est sûr qu'on peut faire des parallèles aussi avec, si on veut, nos pensionnats anti-autochtones qu'on a eu au Canada. Là, c'est aussi un génocide culturel, même si on a eu un peu de difficulté à le reconnaître et le nommer avec autant de force. Donc, voilà, ben, simplement là-dessus, j'invite les gens à s'informer. On a accès, on peut pas dire qu'on ne sait pas. Alors, à tout le moins de s'éduquer sur ce qui se passe ailleurs et d'être attentif à notre rôle dans la politique internationale, c'est important.
Ouais, alors oui, vous avez raison de le mentionner, d'autant plus que pour bon nombre de personnes, hein, c'est peut-être les premières fois qu'on entend ce terme-là, Ouïghour. Hein? Alors oui, heureusement que des gens comme les gens de la BBC en Angleterre ont fait un travail extraordinaire là, pour nous donner des images de ces camps. Un sujet dont on va sans doute reparler dans les prochaines émissions de Foi et Turbulence. Alors, l'organisme Développement et Paix Caritas Canada ne conservera des liens de partenariat qu'avec le tiers des organismes qui ont été soupçonnés depuis mars 2018 de ne pas respecter l'enseignement social et moral de l'Église catholique. Tout en refusant de rendre public l'intégralité du rapport de l'enquête menée sur ses partenaires, Développement et Paix et la Conférence des évêques catholiques du Canada viennent de révéler qu'il n'y a plus aucune objection à poursuivre la collaboration avec seulement 20 de leurs partenaires. On a beaucoup appris d'éléments dans ce petit communiqué de 2 pages qui a été publié le jeudi 25 février 2021. D'abord, c'est que ce sont 63 partenaires de Développement et Paix qui ont fait l'objet d'une enquête. Depuis mars 2018, on ne mentionnait pourtant que ce n'était que 52 partenaires. Et jeudi, la Conférence épiscopale et Développement et Paix ont reconnu pour la toute première fois que non seulement 52 partenaires ont été étudiés, mais qu'on en a ajouté 11 autres pour un total de 63. On ne sait pas quand ces partenaires-là ont été ajoutés dans cette liste. De plus, Développement et Paix va s'abstenir de poursuivre 24 partenariats sur 63, faute d'éclaircissement sur des préoccupations sérieuses relatives à des prises de position ou à des actions qui contredisent l'enseignement social et moral de l'Église. Nulle part on ne précise quels sont les enseignements qui n'ont pas été respectés et on ne précise pas non plus quelles actions sont reprochées à ces partenaires-là. Alors, c'est la fin d'un long processus, d'un programme d'enquête, d'une longue enquête, Frédéric Barriot. C'est une enquête que vous avez suivie, en fait, vous, du Centre Justice et Foi, là, depuis 3 ans déjà. Et en même temps, est-ce que vous êtes satisfait des conclusions que nous sont rapportées?
Non, pas du tout, du tout. C'est extrêmement, extrêmement préoccupant. Donc, évidemment, ce n'est pas la première crise. On se rappellera quand même celle de 2011 et 2012, enfin, autour de 2010, qui avait été quand même sensiblement la même. Donc, sur la base d'accusations faites par un certain nombre de blogs prétendument pro-vie, qui ont alerté donc une certaine frange de l'épiscopat, principalement de l'Ouest, mais aussi de l'Ontario, donc qui est à la base de tout ça. Mais donc, tout ça est extrêmement, extrêmement préoccupant. Préoccupant à bien des égards. Préoccupant par les conséquences quand même de cette crise-là, mais aussi sur l'extrême opacité de la démarche. Donc, lors de la dernière crise, il y avait quand même une opacité, somme somme toute comparable, bien que quand même il y avait eu une enquête qui avait été menée non pas par une firme privée, mais quand même par un membre de donc un frère évêque, l'ex-évêque de Saint-Hyacinthe,
François Lapierre, hein,
quand même, qui avait mené une enquête sur le terrain. Donc ça, c'est extrêmement préoccupant. Il y a une espèce de technocratisation d'une part qui est extrêmement préoccupante. Donc en termes de gouvernance aussi, c'est extrêmement grave. Bon, je fais l'impasse aussi sur, vous l'avez évoqué d'entrée de jeu, donc on ne précise pas de manière explicite donc ce qui est reproché exactement.
Ouais.
Bon, on dit des accrocs à l'enseignement social de l'Église, mais lesquels?
C'est vaste, là.
On comprend bien que c'est tout ce qui touche à la santé reproductive qui est clairement vraiment l'élément qui est reproché. Et encore, faudrait démontrer de manière explicite et très, 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 très claire qu'il y a eu des pratiques en ce sens, que des personnes travaillant ou collaborant avec l'une ou l'autre de ses partenaires aient des positions, disons, plus librement pro-choix est une chose, mais qu'il y ait eu des pratiques allant en ce sens en est une autre. Et à mon sens, je ne crois pas que cette démonstration-là n'ait encore été faite. Bon, l'autre élément vraiment qui me préoccupe, c'est quand même le changement de nature. Donc, déjà, les modifications au Conseil national où il y aura une présence épiscopale beaucoup plus lourde qu'auparavant dit quand même quelque chose. Rappelons-le. Développement et paix était vraiment l'incarnation de l'ecclésiologie de Vatican II, donc où c'était l'égalité entre les baptisés, c'était aussi l'apostolat de la compétence. Les gens qui travaillent en solidarité internationale, qui connaissent le terrain, qui connaissent les réalités, sont les mieux placés pour juger de la validité ou non d'un projet. Lorsqu'on est en train de créer, c'est une espèce de comité de censure épiscopale, finalement, qui, à partir d'une grille de lecture extrêmement restrictive, va déterminer vraiment quelle vie doit être soutenue d'une certaine manière.
Exact.
Parce qu'en retirant des fonds à des organismes qui travaillent vraiment à empowerer, à donner vraiment des leviers de développement collectif, mais aussi carrément en faisant de l'aide directe pour redonner de la dignité, en retirant ces sommes-là, on va littéralement mettre des vies et de la dignité humaine en danger. Donc, c'est ça qui me préoccupe ici. Donc, c'est vraiment une reprise en main, et j'insiste, sur la base quand même de dénonciations faites par des blogs, et aussi, donc, sur la base d'une vision, à mon sens, vraiment très, 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 très étriquée de la sacralité de la vie.
Alors, Développement et paix refuse toujours de dévoiler les noms des partenaires qui ont été conservés ou même qui ont été rejetés au terme de cette longue enquête. Une enquête qui a sérieusement miné la réputation de cet organisme fondé en 1967, longtemps considéré comme un fleuron de l'Église catholique au Canada et un fleuron dans le monde entier, là. Sabrina Di Matteo, ce silence, ça vous inquiète? Je pense qu'on a perdu Sabrina. Alors, je vais y aller avec vous, Suzanne Loisel. Vous, ça vous inquiète, ce silence-là? Ça vous étonne pas, sans doute?
Moi, je suis scandalisée.
OK.
Oui. Pour vous dire, être préoccupé, oui, c'est une chose. C'est pas la première fois qu'on parle de la crise à Développement et paix depuis les dernières années.
C'est vrai.
On a évoqué qu'Haïti, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, mais je pense que Développement et paix a fait partie de nos réflexions, nos analyses. Je suis, moi, absolument scandalisée, consternée par ce qui se passe et au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais plus précisément les dernières années, aboutir à un communiqué. Où est le rapport? Moi, j'aimerais bien lire ce rapport, comme ayant été quelqu'un de très proche de Développement et paix pendant des années. Et alors que j'étais à l'entraide missionnaire, on a suivi toutes les épopées, toutes les étapes, des bons moments de Développement et paix et des crises dont Frédéric a évoqué, celle de 2011, 2012, etc. Oui, moi, je suis scandalisée parce que on est en train de mettre Développement et paix dans le tordeur. On n'est pas en train de le mettre, on a mis Développement et paix dans le tordeur. Frédéric l'a évoqué, la mission de Développement et paix a été complètement détournée. Toute cette vision d'un partenariat entre laïcs et on a le développement épais était le bras de la solidarité internationale avec la confiance dans des laïcs compétents sur des enjeux internationaux. On a bulldozé ça. Toute la question du partenariat. Moi, je voudrais bien savoir les gens qui ont produit ce rapport, qu'on verra je ne sais pas quand, mais moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une mobilisation pour faire sortir ce rapport, pour qu'on puisse l'analyser et qu'on puisse, je pense, parce que quand je regarde les conclusions, sûrement dénoncer. D'abord, la méthode qu'ils ont utilisée, ça s'est fait sans concertation, moi je dirais d'abord avec les partenaires du Sud. Quelle a été la parole, la place des partenaires du Sud dans l'élaboration de ce travail d'examen? Mm-hmm. En fait, c'était pas un examen, hein, c'est une enquête.
C'est une enquête. C'est aussi un terme qui a été reconnu là, pour la première fois dans le communiqué de presse là, de la semaine dernière.
Exact, exact. Et ça s'est fait sans consultation des partenaires sur le terrain. Ça s'est fait sans consultation, à ce que je sache, du personnel. Ça s'est fait en catimini avec des évêques et le directeur adjoint, parce que c'est l'unique nom que l'on voit de développement et paix. Où est le directeur général? Où est l'équipe de gestion? Où est l'équipe des employés? Moi, je pense que oui, je suis scandalisée parce qu'on a tordu la mission, parce que ça s'est fait de manière opaque, non respectueuse des partenaires. Ça se fait, oui, en mettant de l'avant la justice sociale, la morale. Est-ce que c'est vraiment dans une perspective de justice sociale, tout ce processus et les conclusions auxquelles on arrive et qu'on extermine des partenaires avec qui on a travaillé et qui sont en lien avec des populations locales sur des enjeux très précis au niveau climatique, au niveau social, etc.? Non, écoutez, moi, je m'attendais pas à plus, pour vous dire la vérité, à regarder comment ça se déroulait. Et ça fait tellement de temps qu'on exige, oui, qu'on exige parce qu'on était des partenaires de développement et paix, d'avoir accès à l'information. Je peux pas croire qu'une organisation qui avait tant de crédibilité, qu'elle a été complètement salie sur la place publique finalement, mais sans preuve, sans ouverture, sans dialogue, sans en catimini, et qu'on a été pris dans une espèce d'engrenage contrôlé par des évêques, quelques évêques. Je ne parle pas de la conférence des évêques catholiques du Canada, je parle de quelques évêques anglophones de droite qui s'alimentent à des sites comme Life... voyons, comment
Life
ça s'appelle?
LifeSite,
excusez.
Oui, vous l'avez nommé. Et d'ailleurs, on s'en était pas caché à l'époque, il y a 3 ans, donc on avait pris plusieurs informations concernant les partenaires de développement et paix dans des sites semblables. Vous êtes de retour, Sabrina Di Matteo. Écoutez, ce rapport devait, cette enquête devait rétablir la réputation de développement et paix et celle de ses partenaires là, qui étaient soupçonnés d'avoir commis des gestes ou d'avoir dit des paroles qui étaient contraires à l'enseignement social ou moral de l'Église. Est-ce que la réputation de développement et paix a été rétablie?
Je ne crois pas, malheureusement. Et en fait, la conséquence, à mon avis, la deuxième conséquence la plus terrible après la perte de soutien pour des partenaires, c'est le bris de confiance avec les membres et les donateurs. Faut se demander... parmi les nombreux donateurs qu'on parle de communautés religieuses ou de particuliers qui donnent, on pense au cinquième dimanche du carême qui est toujours le moment de la collecte annuelle de développement et paix au Canada. Et là, pour la deuxième année consécutive, il n'y aura pas cette collecte dans toutes les paroisses. Donc, c'est une énorme perte au niveau du financement. Mais on peut se demander à quel point est-ce que les donateurs suivent ce dossier? Est-ce qu'ils sont au courant de ce qui est en train de se passer ou est-ce qu'on donne un peu sur le pilote automatique? Pour moi, il y a aussi la question des membres de développement et paix. Évidemment, on peut donner sans être nécessairement membre, mais quelle parole les membres ont pu avoir à travers tout ça? Et effectivement, est-ce qu'il y a place pour une dissidence? Suzanne évoquait que c'est, il semblerait que c'est une poignée d'évêques qui est à l'origine de tout ça, il faut le dire, d'une campagne de désinformation par rapport aux partenaires et à leur supposé non-respect de l'enseignement de l'Église. Mais qu'en est-il donc des évêques qui s'opposent à ça, qui veulent faire la vérité? Est-ce qu'ils ont une voix, est-ce qu'ils oseraient avoir une voix dissidente par rapport au reste de la conférence épiscopale canadienne? Pour moi, c'est ça en fait là, qui sont les conséquences et qui viennent briser cette confiance à cause du manque de transparence, de la désinformation l'a emporté en fait sur la transparence. Et tout le monde se retrouve entre l'arbre et l'écorce. Les donateurs, s'ils retirent leurs dons en constatant ces problèmes, vont se trouver à affecter le financement. Il y a des employés qui sont entre l'arbre et l'écorce, évidemment, aussi, et des évêques, et même des partenaires qui choisissent, face à toute cette saga, de ne pas essayer de poursuivre le partenariat et par le fait même, donc, de réduire leur propre accès à du financement. Donc, pour moi, tout ça est absolument tragique et j'espère qu'il peut y avoir de la pression pour qu'on puisse voir vraiment ce rapport et qu'on ait accès aux informations sur ce qui s'est vraiment tramé à travers ça.
Alors, écoutez, il nous reste seulement 2 minutes là, à peine pour cette émission-là. Il y a un point qui a été mentionné à l'intérieur de ce communiqué de presse-là, qui n'en dit pas beaucoup, mais qui en dit aussi beaucoup sur toute cette histoire, c'est que dorénavant, la Conférence épiscopale canadienne, donc la CECC, le personnel de la CECC, va devoir autoriser tout nouveau partenariat que les responsables de développement et paix voudraient instituer avec des groupes du Sud. Est-ce que c'est pas une perte complète là de l'indépendance? Allez-y très très brièvement, Suzanne Loisel.
Ah, ça fait partie de mon côté scandalisé par le dossier. Développement et paix est sous domination des évêques. Les évêques ont pris le contrôle de l'organisation. Alors, cette organisation qui avait des espaces démocratiques, un conseil national, comité de projet, etc. C'est comme si ça n'existe plus et que les évêques prennent la parole et prennent le pouvoir.
Alors, des constats difficiles, en tout cas pour Développement et paix. Sans doute qu'on pourra y revenir si on va réussir à mettre la main sur le rapport sur les partenaires. Alors, écoutez, voilà tout pour cette émission « Foi et turbulence ». Je tiens à vous remercier en tout cas pour chacun et chacune là pour votre travail et vos réflexions là qui sont toujours importantes. Je vous rappelle que l'émission Foi et Turbulence est produite par l'Institut pastoral des Dominicains avec le soutien financier de la Fondation Lucien Labelle et de la Fondation Adieu va. Notre prochaine table ronde sur l'actualité se tiendra dans 2 semaines, soit le mercredi 17 mars 2021. Merci à nos invités d'aujourd'hui, Sabrina Di Matteo, Suzanne Loisel et Frédéric Barriot. Merci à Mathieu Lavigne, le coordonnateur de cette émission, et à Daniel Fortin à la régie. Ici François Gloutenay de l'agence de presse Présence qui vous remercie d'être à l'écoute de Foi et Turbulence.